Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bienvenue sur cet épisode un petit peu spécial, co-organisé par La Forêt des Possibles et la Cité des Transitions, et enregistré ici au Lep aux Friches, à la friche de la Belle de Mai. Nous sommes le lundi 24 novembre 2025, et cet événement a donc lieu pendant le mois de l'ESS. Il s'organise autour de tables rondes face au public pour, dans un premier temps, c'est celui-ci, dresser le constat des difficultés de ce secteur, puis dans un second temps, un peu plus tard, partager les solutions que nous ou nos structures pouvons mettre en place pour mieux nous épanouir. Je m'appelle Félix Tédelin et je suis accompagné de Marin Moffret de l'autre côté de la table. Nous serons vos hôtes pour cette première émission. D'ordinaire, la forêt est ce lieu où l'on vient chercher de la fraîcheur, de l'équilibre, un espace pour respirer. Mais il faut aussi le dire, parfois la forêt brûle. Les frondaisons se teintent alors de rouge, la lumière devient trop vive et les arbres, même les plus anciens, craquent sous les heurts du monde.
C'est un peu cette image qui nous accompagne aujourd'hui, celle d'un écosystème sous tension, bousculé par des chocs qui dépassent chacun chacune d'entre nous, mais dont nous ressentons toutes et tous les secousses. Car l'actualité récente nous rappelle à quel point ces incendies, symboliques comme bien réels, gagnent du terrain. Le premier, c'est évidemment celui du climat. Les rapports se succèdent, les alertes aussi, et pourtant, le journal Libération titrait hier à propos de la COP30 qui s'est tenue à Belém, au cœur de l'Amazonie, qu'il s'agissait d'un accord sans ambition. Pour éclairer cette dimension globale, nous accueillons Loïc Marcier, ancien coordinateur des projets à la fresque du climat, qui intervient aujourd'hui surtout avec sa casquette de spécialiste de l'Anthropocène. Bonsoir Loïc.
Bonsoir tout le monde. Ravi d'être là.
Le deuxième incendie, c'est celui qui traverse nos institutions. Une crise démocratique profonde, un État qui peine à tenir ses engagements et des budgets publics qui s'évaporent plus vite que la rosée les matins d'été. Dans ce contexte, l'économie sociale et solidaire, pourtant en première ligne, se retrouve souvent sans outils, sans moyens, parfois même sans écoute. Pour en parler, nous recevons David Ekel, directeur des chambres régionales de l'économie sociale et solidaire de la région PACA, qui observe au quotidien comment les choix politiques régionaux impactent les structures du territoire. Bonsoir David.
Bonsoir à tous, bonsoir à toutes.
Et puis, il y a les braises, celles qui n'apparaissent qu'une fois qu'on regarde à hauteur d'hommes et d'hommes-femmes. L'incidence très concrète de ces crises sur les organisations et les personnes qui les portent. Certaines ferment, d'autres se réinventent, mais toutes traversent des périodes de fragilité. Nous en parlerons avec Alina Beka, ancienne co-directrice de la Cité de l'Agriculture, qui a dû mettre la clé sous la porte à la surprise générale cet été. Bonsoir Alina.
Bonsoir à toutes et à tous.
Alors bien sûr, soyons clairs dès maintenant. Ici, il n'y a ni vaincu ni vainqueur, uniquement des actrices engagées à leur niveau et qui affrontent des vents contraires. Et évidemment, nous ne pourrons pas tout aborder en 30 minutes, la forêt est vaste et certains sentiers resteront donc dans l'ombre. Mais l'enjeu du moment, c'est de porter une voix lucide, ancrée dans l'actualité et de comprendre comment les heurts du monde créent des difficultés pour nos structures et pour les personnes qui les font vivre.
Pour cela, nous allons suivre une trame en sablier. Dans un premier temps, nous partirons du plus large avec Loïc à l'échelle du système Terre, puis avec David à l'échelle régionale et politique, pour aller vers le particulier, enfin avec Alina à l'échelle des structures et des personnes. Puis nous remonterons ces échelles dans un second tour de table de l'expérience individuelle à la vision systémique du moi au nous et du nous au tout. Bienvenue dans cette discussion, que ces moments nous permettent d'entrevoir les causes de ces flammes et ces fumées pour mieux les combattre. Et dans un premier temps, je vais laisser la parole à Loïc dans un premier tour d'horizon pour nous parler de ce qui se passe au niveau du système Terre et les actualités qui ont eu lieu de l'autre côté de l'Atlantique. Bonsoir Loïc.
Bonsoir à toutes et tous, merci pour l'invitation. Donc on va en parler au cours de cette table ronde, la situation de l'économie sociale et solidaire, elle est particulièrement compliquée en ce moment, et pourtant elle est positionnée sur des enjeux sociaux, sociétaux et environnementaux majeurs, et pour lesquels la situation est critique également. On va prendre quelques exemples sur les sujets environnementaux. Marin l'a rappelé en introduction, la COP30 sur le climat vient de se terminer au Brésil. Il y a eu de maigres avancées, mais avec l'absence des États-Unis, une concentration record de lobbyistes des énergies fossiles, et aucune mention de ces mêmes énergies fossiles dans l'accord final, on ne peut pas dire que ce soit un grand succès. Par ailleurs, on a appris cette année que la 7e limite planétaire sur 9 a été dépassé, en l'occurrence l'acidification des océans, et également que le blanchiment des coraux, donc en fait la mort des coraux, semble désormais irréversible. C'est ce qu'on appelle un point de bascule du système climatique. Et en parallèle, on assiste à un effondrement de la biodiversité. Sur les 21 000 populations de vertébrés, WWF, qui suit ses effectifs depuis 1970, observe une baisse de 68% des individus, tout milieu, toute région du monde confondue. Et on observe également 1 million d'espèces naturelles qui sont menacées d'extinction. Donc c'est un taux d'extinction 100 à 1000 fois plus rapide que le taux naturel. Et sur les sujets sociaux et sociétaux, on pourrait aussi multiplier les exemples et les chiffres, avec les inégalités considérables de revenus et de patrimoine au sein de la société, une injustice sociale sur les responsabilités de la crise écologique et de qui va en subir les conséquences en premier. On a un problème majeur de mal logement et de précarité énergétique en France, avec 350 000 personnes sans domicile et 735 personnes qui sont mortes dans la rue en 2024. Près de 3 millions de demandeurs de logement social mi-2024, ce qui constitue un record, et 3 millions de ménages qui souffrent de précarité énergétique, c'est 10% de la population, et près de 11 millions de personnes qui sont en situation de pauvreté monétaire en France, et ce qui correspond à une augmentation de 600 000 personnes entre 2017 et 2022. Voilà pour quelques chiffres et points de repère.
Merci Loïc. Des éléments nécessaires pour comprendre en fait que l'ESS continue à avoir un rôle essentiel, parce qu'avec un constat comme ça qui est quand même assez alarmiste, ça vient témoigner qu'il est absolument nécessaire de continuer à apporter des engagements pour répondre à ces problématiques. Et pourtant, à l'échelle nationale, économique, eh bien, les difficultés viennent se densifier, et je vais laisser la parole à David pour venir nous donner un éclairage sur cette échelle-là.
Merci Marin. D'abord, en vraiment deux mots, d'où je parle, la CRES. La CRES, c'est quoi ? Alors, c'est une institution, aujourd'hui, on dirait, de niveau régional. Partout, dans toutes les régions de France administratives, vous avez une CRES qui a été reconnue par le législateur pour pouvoir représenter ce qu'on appelle en France les entreprises de l'économie sociale et solidaire. C'est-à-dire qu'on est le seul acteur de droit privé qui a la capacité, à un moment sur un territoire, au nom d'un secteur entrepreneurial, d'interpeller un préfet, un président de région, une chambre de commerce, une chambre des métiers, une chambre d'agriculture, pour dire voilà ce qu'est une entreprise de l'ESS et voilà ce que sont ses enjeux. Ce petit mot pour vous dire que la CRES ne représente pas le champ de l'économie sociale et solidaire. La représentation du champ de l'économie sociale et solidaire, ce sont les acteurs qui font dans les territoires l'économie sociale et solidaire. Une CRES, c'est comme une consulaire. Donc, c'est une parole publique de représentation d'un mode d'entreprendre. Alors, pour commencer à explorer la question, juste, moi, j'aime bien qu'on se redise d'où on vient. En fait, nos fondateurs, qu'est-ce qu'ils ont souhaité avec d'abord le premier terme qui était celui de l'économie sociale? On est né, en fait, d'un mouvement d'hommes et de femmes qui, pendant l'ère industrielle, en fait, se sont auto-organisés. Parce que dans les usines, il n'y avait que des journaliers, quelques journalières à ce moment-là, et que ben il fallait pour des questions de sécurité, de maladie, d'organisation aussi du loisir ou de la garde des enfants, commencer à s'auto-organiser pour pouvoir à un moment répondre à des besoins sociaux. Donc dès l'origine, l'économie sociale et solidaire et ses structures, c'est d'abord un mouvement de transformation sociale, une démarche politique d'auto-organisation. Et cette auto-organisation, aujourd'hui, elle habite encore nos entreprises. C'est pour ça qu'on parle de démocratie à l'intérieur de nos entreprises, quelque chose qui est quand même très particulier aujourd'hui quand on pense un fait économique. C'est aussi pour ça que toutes nos organisations sont à ce qu'on appelle de lucrativité limitée ou de non-lucrativité, parce qu'elles ont d'abord chercher à répondre à des besoins sociaux. Elles n'ont pas pensé l'intérêt particulier au travers d'un enrichissement. Ce mouvement de transformation sociale dans une région comme la nôtre, qu'est-ce qu'il représente ? On est à la marge, on n'est rien du tout, ou très peu. On est un peu moins de 13% de l'emploi privé de notre territoire. Plus d'une personne sur 10 travaille dans le champ de l'ESS. Donc oui, aujourd'hui, et je finirai là-dessus, l'économie sociale est solidaire, est malmenée. Mais elle nous dit deux choses. Le contexte nous dit deux choses. Un, On pourrait le prendre comme une contradiction, mais jamais l'ESS n'a été aussi moderne, j'y reviendrai. Ça a été à plusieurs fois déjà évoqué, nous avons besoin de coopération par rapport aux défis de transition, nous avons besoin d'innovation sociale. Tout ça, nous le portons à l'intérieur de nos structures. Et autre paradoxe, alors qu'aujourd'hui en France, nous sommes malmenés par un projet de loi de finances et un projet de loi de finances sur la sécurité sociale, en 2021, l'Union européenne est venue reconnaître l'ESS pour la première fois. En 2022, l'ONU a enfin installé un texte sur la contribution de l'ESS au développement durable. Donc, paradoxalement, dans le contexte actuel, pour redonner quelques éléments positifs à la tonalité de ce début de soirée, nous sommes en changement d'échelle dans ce que représente l'ESS aujourd'hui au niveau planétaire.
Merci David, et quand tu évoques le fait d'être malmené, eh bien ça a des incidences très concrètes. Alina, je te laisse présenter ce qui s'est passé avec la Cité de l'Agriculture et un peu le choc collectif qu'on a vécu cet été.
Merci Marin, merci David, merci Loïc. Oui, effectivement, alors là je vais un petit peu aller sur vraiment une histoire factuelle, et peut-être que dans un second temps, plus tard, je vous livrerai un récit un peu plus analytique. Mais d'abord, la Cité de l'Agriculture, c'était quoi en fait? C'était une structure associative à la fois pionnière et assez majeure sur les questions de transition écologique sur le territoire. C'est peut-être pour ça que notre disparition aussi est arrivée comme un choc. Et c'était une structure qui allait fêter cette année ses 10 ans, donc une structure qui semblait relativement solide, du moins par sa capacité en fait à avoir survécu jusqu'à là. Et qui s'était donné comme mission de relier les sujets d'agriculture, les sujets d'alimentation et le sujet de la ville, de la fabrique du territoire. Et c'était une structure qui avait finalement un rôle assez atypique, celui d'un intermédiaire. Donc on n'était ni un syndicat agricole urbain, ni une agence publique, ni un laboratoire de recherche, ni un collectif citoyen, ni un bureau d'études, mais on était vraiment un peu de tout cela à la fois. Donc ce qui rendait notre rôle à la fois assez essentiel, mais aussi parfois un petit peu difficile à vraiment palper et mettre en lumière. Ensuite, en fait, voilà, concrètement, on menait à la fois des projets, voilà, de recherche-action, des projets sur le terrain, une ferme urbaine, une épicerie mobile, mais on accompagnait aussi les acteurs. On était un petit peu un lieu de ressources. On fédérait un ensemble de plus de 70 structures sur le territoire sur nos sujets. On proposait la formation et des événements qui étaient à la fois fédérateurs et puis des lieux à la fois sérieux de coopération, mais aussi des lieux de joie collective, et ce qui pour nous en fait était assez central dans l'idée d'une transition écologique et sociale en fait. Voilà. Et concrètement, on était une grosse structure, 21 salariés au maximum en 2022, 12 salariés au moment de notre liquidation judiciaire. On avait un modèle économique qui finalement reflétait assez bien notre rôle, puisque comme vous l'avez compris, en fait, ce qu'on proposait, c'était du commun, du lien, donc des choses finalement qui ne sont vraiment pas des biens, mais bien des services, et des services un petit peu atypiques. Donc on était financé à 75% par des subventions publiques, de la ville jusqu'à l'Europe, en passant par toutes les échelles intermédiaires, 15% de financement privé, une part qu'on essayait d'augmenter, et puis 10% de prestations, de formation, d'études, j'en reparlerai aussi après. Concrètement, moi, ce que j'aimerais juste dire en cette première partie, un élément très important, c'est qu'on n'est pas dans un cas où, en fait, on a été en bonne santé, puis malade, puis la santé s'est dégringolé, et puis jusqu'à un moment de rupture. On a passé 10 ans, en fait, à être sur une ligne de crête, en oscillant entre des élans de motivation, de la fragilité, entre des salaires bas et une inventivité folle pour faire face en fait aux diverses crises qu'on a traversées, entre reconnaissance de notre rôle et puis fragilité structurelle. Avec chaque fin d'année vraiment un besoin d'aller chercher de quoi finir l'année. Et puis on a eu un premier moment de rupture, et je terminerai sur ça, en 2023, où face en fait à ces différentes crises, on a mis en place un certain nombre de solutions qu'on mettait déjà en place, mais où on s'est dit là vraiment c'est le moment où y aller très très fort, donc avec une restructuration sur laquelle je reviendrai plus tard. Et puis une bascule en 2025, du coup avec une situation qui est venue se confronter au contexte actuel. J'en parlerai de manière très concrète juste après. Et puis finalement quelque chose qui s'est fait très rapidement entre une alerte du commissaire aux comptes en juin 2025 et un mois après, une liquidation judiciaire, mais qu'on a traversé à l'image de notre structure avec, avec soin, dignité et esprit collectif. Voilà, et juste, je voudrais juste vous dire merci beaucoup de m'avoir invité. Pour moi, c'est à la fois cathartique, mais je pense aussi, encore une fois, à l'image aussi de la Cité de l'Agriculture, entre réflexivité et coopération, et je pense qu'il est essentiel de partager tout ça.
Vous l'aurez compris, dans ce premier tour de table, on est allé du général au particulier. On va repartir dans l'autre sens pour remonter ce sablier. Alina, on va t'inviter à reprendre la parole. Merci beaucoup pour tout ce que tu partages. D'ailleurs, on sent l'émotion dans ta voix. Et en fait, on voulait savoir si tu pouvais préciser un petit peu les causes de ces déboires.
Tout à fait, merci beaucoup. Alors, je dirais qu'il y a tout d'abord une fragilité structurelle. Qu'on partage en partie avec l'ensemble du secteur de l'ESS et plus particulièrement bien sûr avec l'ensemble du secteur associatif, et d'autres fragilités structurelles qui sont très particulières peut-être à notre histoire et à ce rôle que j'évoquais précédemment de structure intermédiaire, d'agent liant entre des mondes qui se parlent peu, et pourtant il est très nécessaire qu'aujourd'hui le monde rural parle au monde urbain, que la recherche parle aux institutions et aux citoyens, citoyennes. Donc on a tout d'abord, quand même j'évoquais une structure grande et qui a grandi très vite. On a nous souvent parlé d'une crise d'hypercroissance qui a eu lieu à peu près entre 2019 et 2020, où on est passé très rapidement de 4 à une quinzaine de salariés. Alors on dit crise d'hypercroissance, moi j'aime plus trop le terme parce qu'on dirait en fait que ça a été une espèce de progression spontanée et qui était juste le fruit d'une curiosité et d'une trop grande faim de notre part. Non, la réalité, c'est qu'en fait, on était attendu sur ces sujets-là, qu'il y avait une opportunité, un alignement des planètes politiques et économiques à ce moment-là aussi, où on était encore relativement peu nombreux aussi sur le champ de l'agriculture et de l'alimentation, et du moins où notre rôle était vraiment aussi reconnu comme étant central, et donc on a cette crise d'hypercroissance était aussi une espèce de domaine parce que en fait finalement elle a permis de développer énormément d'activités, de créer des choses qui ne disparaîtront pas. Et c'est pas parce que ce passage à l'échelle a été très difficile à gérer que c'est forcément quelque chose de mauvais. Enfin voilà. Ensuite, je dirais que du coup le fait qu'on soit une si grosse structure, ben ça mène à un besoin en fonds de roulement, à l'argent en fait qu'on doit sortir tous les mois du fait que 60% de nos charges ce soit des ressources humaines et donc des charges en fait qui sont à la fois importantes mois par mois et qui sont très stables contrairement aux produits. Qui, du fait de notre modèle économique que je décrivais avant, était vraiment en dysynchronie avec notre action, des produits qui font qu'on a des périodes d'opulence relative, et puis surtout des grosses périodes de creux qui, du coup, nous met un peu dans ce cercle infernal de devoir avoir recours à une dette de survie, à aller redoubler d'efforts pour chercher des financements supplémentaires et finalement à passer beaucoup de temps à le faire parce que, en fait, ça coûte extrêmement cher d'être pauvre. Parce que je précise que masse salariale importante, mais salaire bas. Ce qui provoquait par ailleurs aussi un turnover très important, donc une structure grosse mais très peu stable quand même sur ses effectifs. Ensuite, tout ça est bien sûr aggravé par la logique d'appel à projet, qui est quelque chose qui fait un peu penser que en fait on ne serait en tant que structure que l'addition de projets, alors que non, une structure pour qu'elle fonctionne, pour qu'elle mène à bien ses projets, a besoin de fonctionner et de fonctionner et ça vient alimenter en fait juste un besoin de stabilité là où la logique pure d'appel à projet ou de fonctionnement et de financement par projet nous pousse sur une espèce de tapis roulant administratif fait de dépôts, redépôts, bilans qui sont pas toujours avec des indicateurs qui sont pas toujours très cohérents avec le travail qu'on fait et puis plateforme qui bug, enfin je suppose que vous connaissez ça aussi, etc. Et du coup, ce qui mène concrètement, et ça, il faut en parler, à un épuisement des équipes très fort. Hein, on est, c'est l'impact humain, c'est aussi celui-ci, des problématiques de santé. Quand bien même, en fait, on avait un travail collectif qui fonctionnait bien. Et ensuite, en fait, du coup, on a cette fragilité structurelle, j'essaye de résumer un maximum, qui vient être aggravée en 2000... alors, qui d'abord, on fait face du coup à une première crise où on décide de restructurer. On procède à des licenciements économiques. Du coup, ce qui vient réduire nos charges en 2023, fin 2023, 2024, on essaye de se refocaliser sur nos missions principales. On entame avec le LICA notamment un travail de restructuration interne qui fonctionne. On a une dynamique collective qui est retrouvée. On a des projets d'avenir qui semblent être des solutions, j'en parlerai après. Donc, on a un projet foncier qui se monte, on a notre offre de formation qui se structure. Mais malheureusement, ce nouveau souffle qu'on a ressenti à ce moment-là a été, finalement, on n'a pas pu faire face aux vents contraires. Les vents contraires, c'était quoi ? En 2024, on a l'austérité budgétaire nationale qui vient ruisseler sur les collectivités locales, qui vient parfois aussi s'allier à des reconfigurations politiques locales et qui concrètement résulte en des coupes à tous les niveaux, des coupes qui peuvent avoir l'air de pas grand-chose, mais qui, mis bout à bout, sur les 6 premiers mois de 2025, eh bien, c'est 100 000 euros de moins que ce qu'on a prévu dans nos hypothèses les plus conservatrices. Et puis surtout, c'est des retards et des retards de vote, des hésitations, des arbitrages qui prennent du temps. Et ça peut être tout simplement fatal. Et on bascule d'une tension de trésorerie à une cessation de paiement de manière très rapide. Voilà. Merci.
Merci beaucoup, Alina, pour ce partage qui nous remue, je pense, toutes et tous dans cette salle, parce que je pense qu'on est nombreux à être face à ces questions-là. Je me tourne vers David désormais, parce que sur la base de cet exemple très parlant, on imagine que, en fait, la cité de l'agriculture n'est pas la seule à être confrontée à ça, qu'il y a des signaux forts, qu'il y a des signaux faibles, que vous identifiez à l'échelle régionale, voire à l'échelle nationale avec la CRES. Je voulais avoir ton regard sur cette question.
Oui. D'abord, merci Alina pour ton témoignage, parce qu'il est... Il est précieux à la fois dans sa dimension humaine, mais aussi dans ta capacité aujourd'hui, je dirais, analytique, à en rendre compte. Et malheureusement, force est de constater que un ensemble de choses dont je vais vous parler, qui sont un peu techniques, sont en plein dans ton témoignage. On a dit tout à l'heure, moi c'est ma conviction qu'on changeait d'échelle, qu'on pèse dans le paysage. Par contre, force est de constater que effectivement, dans une approche économique, nos entreprises aujourd'hui ont du mal à résister à des chocs économiques ou des chocs budgétaires. Notre actualité aujourd'hui, qui est une actualité conjoncturelle, on pourra après parler de la tendance générale depuis 10 ou 20 ans, est un choc d'abord budgétaire. Pourquoi on n'arrive pas à le supporter majoritairement dans nos structures ? Nos structures ont une rentabilité limitée. On l'a dit, ce n'est pas leur projet. Par contre, cette rentabilité limitée dans nos structures s'accompagne souvent de marges très limitées. C'est-à-dire que nous avons du mal à créer aujourd'hui de la valeur monétaire. Cette valeur monétaire, si on arrivait à la créer, on pourrait la mettre en réserve. Et donc, on pourrait augmenter ce qu'on appelle nos fonds propres. Et tu le décris très bien, en fait. Dans une situation de difficulté, alors que vous aviez un projet qui avait une vision économique, qui cherchait à créer de la valeur monétaire avec une hybridation notamment de vos ressources, malheureusement, vos fonds propres ont fondu comme neige au soleil, comme dirait l'autre, et ça ne vous a pas ça a été insuffisant pour répondre à vos besoins de trésorerie qui vous ont amené jusqu'à la cessation de paiement. C'est aujourd'hui un problème crucial pour nos structures de l'ESS. Ce n'est pas notre seule responsabilité d'acteur, mais par contre, c'est notre responsabilité de le comprendre qu'aujourd'hui, si on veut inscrire dans la durée nos projets d'entreprise, il faut absolument qu'on travaille sur cette question de la structuration de nos fonds propres, c'est-à-dire nos propres réserves, en fait, être autonome par rapport à notre avenir, être en capacité de financer tout seul notre développement, de pouvoir à un moment être moins dépendant de la puissance publique dans la gestion de son avenir. Et l'autre sujet, tu le dis très bien, c'est la dépendance, en fait, au financement public. Et plus on est aujourd'hui dans la solidarité, dans l'accueil des populations fragilisées, plus on dépend des financements publics. Certaines de nos structures aujourd'hui sont dans des relations quasi tutélaires, en fait, avec la puissance publique, où c'est des prix de journée qui font le modèle économique, leur modèle économique. En mars 2025, cette année, sur une étude commandée par le mouvement associatif, un tiers des associations employeuses de France avait moins de 3 mois de trésorerie d'avance. Donc, c'est vraiment une réalité qui dépasse, Alina, largement, en fait, ce que vous avez pu vivre. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire ? Là aussi, sans vouloir être trop technique, mais je voudrais quand même indiquer qu'il y a des solutions à notre disposition et qu'à un moment, il faut qu'on les partage. Parce que si on les partage, on va pouvoir faire plaidoyer et les défendre et à un moment, nous mobiliser pour qu'elles puissent voir le jour. La première, c'est de renforcer nos fonds propres. Il y a quelques outils qui existent en France pour ça. Alors rapidement, il y a les titres associatifs, il y a les certificats mutualistes et participatifs. En fait, c'est des systèmes qui permettent à un moment de mobiliser de l'argent majoritairement privé pour que ça vienne constituer ce qu'on appelle des quasi-fonds propres. Et donc, en fait, c'est un système d'endettement à long terme, avec des taux d'intérêt très bas, bonifiés, qui permettent de penser dans la durée la rentabilité que nos entreprises peuvent rechercher. On a un autre levier important aujourd'hui. On le dit pas assez. Il y a un dynamisme aujourd'hui dans la finance solidaire. En fait, on voit que les citoyens, les Français et Françaises globalement, en fait, quand ils ont une capacité d'épargne, ils ont envie de donner du sens à leur argent. Et que cet argent, à un moment, si on leur indique qu'il peut être orienté vers une épargne qui contribue à de la finance solidaire, cette finance solidaire, elle pourrait venir là aussi consolider nos projets économiques. Et enfin, alors ça, à mon sens, c'est de la responsabilité de structures intermédiaires comme les nôtres, la CRES, dans l'interlocution qu'on a notamment avec les pouvoirs publics. C'est dans la période dans laquelle on est, il faut qu'il y ait des solutions offertes aux structures de l'ESS pour qu'elles gardent, alors j'aime pas trop le terme, mais leur capacité en fait à passer la période. Et donc il faut qu'à un moment se mette en place dans les régions, peut-être en interrégional, au niveau national, mais il faut qu'il y ait des ingénieries de projet qui permettent de mutualiser des ressources à destination des entreprises de l'ESS. On pourrait par exemple préfinancer l'attente de subventions qui sont allouées. Et pour finir, par contre, l'élément vraiment conjoncturel aujourd'hui qui nous est nécessaire, c'est effectivement en fait de préserver les financements publics dédiés. On a parlé tout à l'heure rapidement le choc budgétaire. Alors il n'est pas voté et il a déjà été engagé en 2025, mais auquel on pourrait être confronté pour l'année 2026, touche les sujets de solidarité, d'accès au sport pour tous, d'accès à la culture pour tous. Et donc aujourd'hui, le sujet n'est pas de tant dire il faut plus, il faut déjà préserver l'existant. Et il faut que nous arrivions à faire de manière commune un plaidoyer ensemble pour expliquer les populations, les catégories de population, les jeunes, les plus âgés, les fragiles, que ça touche aujourd'hui, que ce budget, en fait, est porteur d'une régression sociale, au-delà de détruire les emplois dans nos organisations, et qu'il est en train d'attaquer un des fondements de notre pacte social, c'est-à-dire la manière dont nous souhaiterions que soient abordées les questions de solidarité. Ce sujet-là est plus politique, mais c'est notre sujet à tous d'être aujourd'hui des citoyens engagés qui affirmeront que non, ça, il ne faut pas le faire.
Merci David. On a beaucoup parlé de financement public. Il y a aussi des structures de l'ESS qui fonctionnent sans financement public. C'est le cas de la Fresque du Climat. Alors pour bien situer ton regard, Loïc, tu as travaillé à la Fresque du Climat et tu n'as pas envie de pouvoir en être le porte-parole officiel, et je te laisserai pouvoir le réexpliquer. C'est important de positionner ton regard. Mais on aimerait avoir ton retour, ton expérience sur ce qui s'est passé à la Fresque. Et puis, il me semble que tu as ensuite des réflexions plus générales que tu souhaites nous partager sur les constats que nous avons autour de cette première table ronde. Je te laisse la parole.
Oui, merci. Déjà dire que je m'inscris pleinement dans ce que nous ont partagé Alina et David. Moi, je constate aussi que les structures de l'ESS de mon réseau, elles souffrent, que certaines ont même mis la clé sous la porte. Et j'observe aussi un fort ralentissement d'activité chez des individus, en auto-entrepreneurs par exemple, qui portent les ateliers de sensibilisation, comme la Fresque du Climat, comme d'autres fresques et même d'autres types d'ateliers, et puis qui portent aussi des services d'accompagnement à la redirection écologique des organisations ou des territoires. Donc ça, je peux en témoigner avec de multiples exemples. En essayant de prendre un petit peu de la hauteur sur cette situation, moi je vois plusieurs dangers majeurs, en plus de ce qui a été déjà partagé. C'est que déjà en premier lieu, bien sûr, il y a la disparition ou la diminution massive d'activité de ces structures. Et ces structures, elles ont des activités d'intérêt général, voire même de service public, comme ça a pu être rappelé. David citait le mouvement associatif. Ils ont publié une étude le mois dernier à nouveau avec 4300 répondants qui disent en gros qu'en raison de la situation financière qu'on a décrite, près d'une association sur quatre parmi les répondants déclare diminuer ses activités en 2025. Près de 40% de ces associations déclarent réduire leur masse salariale et 9% de ces associations déclarent procéder à des licenciements ou à des plans de sauvegarde. Mettre la clé sous la porte en l'occurrence. Et quand on regarde les chiffres officiels, 2025 devrait d'ailleurs être une année record pour les plans de sauvegarde et les liquidations d'associations. Donc on voit bien que c'est un phénomène qui est massif et qui dépasse malheureusement le cas de la Cité de l'Agriculture. Un autre danger, et Alina en a parlé, c'est la précarisation et le burn-out des bénévoles et des salariés de ces structures. Et donc je ne vais pas développer, mais clairement, dans un contexte de plus en plus contraint, c'est les individus qui travaillent dans ces structures-là qui trinquent. Donc c'est à garder en tête aussi. Et puis, à mon sens, il y a deux autres phénomènes qui sont en cours et qui pourraient être accélérés par cette situation. C'est ce que le collectif des associations citoyennes appelle la marchandisation des associations, et Alina en a parlé aussi. Et cette marchandisation, elle peut avoir plusieurs conséquences. Par exemple, le fait de tordre, que ces associations tordent leur mission pour les faire rentrer dans les cases des financements, ce qui va les amener en fait pour répondre à des appels à projets ou à des demandes de financement, finalement à faire des choses qu'elles n'avaient pas forcément vocation à faire au départ. C'est aussi de passer beaucoup de temps et de ressources à chercher ces mêmes financements au détriment de la mission première de la structure. Et puis c'est aussi plus largement d'adopter des méthodes du privé dans l'organisation et le mode de fonctionnement, ce qui va avoir un certain nombre de conséquences et de chocs culturels dans ces associations et plus largement dans les structures de l'ESS. Sur ce sujet, il y a deux rapports de l'Observatoire de la marchandisation des associations que vous pouvez consulter. Et puis dernier point, et ça c'est un avis personnel, je pense que cette situation financière critique, elle pourrait aussi profiter à des acteurs privés qui ont un projet politique incompatible avec les valeurs de l'ESS. Et je pense en particulier à la stratégie philanthropique de Pierre-Édouard Sterrin, qui vise à sélectionner et à renforcer des structures compatibles avec son projet politique qui est très réactionnaire, ultra conservateur. Et ça me semble aussi être un enjeu démocratique de ne pas laisser la place au niveau des financements à de la philanthropie qui pourrait avoir d'autres velléités que celles du bien commun.
Merci. Merci beaucoup Loïc. Et maintenant, ce qu'on va vous proposer, c'est qu'on va faire une ouverture à la salle. On a bien montré que la question de ces constats de où on était l'ESS avait des incidences à différentes échelles, que ça soit sur des enjeux structurels pour les organisations, d'organisation à des échelles régionales et aussi avec des volatilités politiques à l'échelle nationale. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va avoir des grands témoins qui vont venir participer dans un premier temps. L'idée étant de montrer qu'il n'y a pas une approche binaire entre la première table ronde qui est maintenant et la deuxième avec le constat des problèmes et celles et ceux qui portent les solutions en laissant penser qu'il y a ceux qui ont des difficultés et celles et ceux qui trouvent des solutions, que tout ça s'est croisé. Et donc, je vais laisser la parole à Julie Telfour pour ce premier témoignage et ensuite il y aura une ouverture à la salle pour 10 minutes et je recadrerai tout ça juste après. Julie, bien, je te laisse à ton tour venir témoigner sur cette question-là.
Merci. Bonsoir à toutes et tous, je suis ravie d'être là et ça m'a beaucoup touchée le partage d'Alina. Pour me présenter rapidement, donc moi je m'appelle Julie, je suis coordinatrice des activités et des services du Tiers Lab des Transitions. Pour celles et ceux qui ne nous connaissent pas, on est un lieu qui est dans le 4e à Marseille, qui a pour ambition de réunir des entreprises, des entrepreneurs, des organisations et des citoyens autour des sujets de transition écologique et sociale. Très concrètement, qu'est-ce qu'on fait ? On a des services avec un café, un restaurant, des espaces de travail, des espaces de formation, mais on a plutôt à cœur aussi de former et de sensibiliser, autour de ces sujets. Pourquoi je vous dis ça? Parce que ce lieu, il a 2 ans aujourd'hui et il est porté par un... Donc on est une SIC, ça c'est un point important, on est aussi une coopérative d'intérêt collectif qui rassemble aujourd'hui 200 coopérateurs. Et cette SIC, elle est portée par un autre collectif qui s'appelle le LICA. Donc le LICA, c'est une SCOP, attention, accrochez-vous, qui est donc aussi une société coopérative qui existe depuis 2016 à Marseille également. Le LICA, son rôle, c'est plutôt de former. Donc, c'est un organisme de formation et d'accompagnement sur des sujets d'intelligence collective, de gouvernance partagée et de numérique. Bref, tout ça nous amène à, il n'y a pas plus tard qu'un an, puisque du coup, on est un beau collectif de quasiment 20 personnes, avec 2 structures juridiques, un modèle économique, pour le coup, plutôt basé sur de la vente de services. On fait des formations, on loue des espaces, bref. Et on a porté un projet assez colossal qui est d'ouvrir ce lieu, puisque ce lieu, c'est un projet de rachat. C'est important parce que c'est un gros bébé de 4 millions d'euros et il nous a fallu quasiment 4 ans pour le sortir de terre, 1 an de travaux. Bref, ça tourne, en tout cas sur le papier. Et il y a 1 an, en fait, nous aussi, on traverse notre crise. Ça a été un moment hyper dur. Et cette crise, en fait, elle s'est surtout incarnée par une crise de gouvernance qui a mené au départ de 2 cofondateurs. Il faut savoir que le LICA, c'est 6 cofondateurs à la base, et donc c'est comme si une partie de nous était partie. Il y a des points, je ne vais pas rentrer dans les détails de la crise, parce que ce n'est pas tant ça le sujet, c'est plutôt que de vous dire déjà qu'on l'a traversée, qu'on est plus ou moins sortis. En tout cas, on a retrouvé de la joie et on y croit vachement. Mais cette crise, vraiment, pour nous, c'est important d'en parler. Déjà, le premier point, c'est qu'on voit que tout est intriqué. Évidemment, une crise dans un collectif ou dans une organisation, ça ne jaillit pas d'un coup. Ça fait suite à pas mal de choses, mais notamment des tensions économiques, socio-économiques qui ruissellent. Ça nous ruisselle tous dessus, à plein d'égards. Et donc, nous, voilà, il y avait ce sujet de fiabilité, de viabilité et d'intrication entre nos 2 structures juridiques. Et en fait, tout ça s'est incarné en un moment un peu clé où, il y a eu un éclat et les tensions interpersonnelles ont pris le pas, qui font que même si on n'était pas encore à l'étape, de mettre la clé sous la porte, là, pour le coup, notre collectif a pris un coup assez dur. Ensuite, il y a un point important que je voudrais soulever, qui est que dans le secteur de l'ESS, on est toutes et tous des gens très passionnés, très impliqués. Et souvent, la vie pro et la vie perso sont très liées. Ça, c'est un point dont on parle peu. Et pourtant, on va avoir des liens les uns avec les autres qui sont très forts. On va avoir un engagement qui est très fort. Et tout ça, c'est un terreau hyper fertile pour amener à des moments où en fait, on s'oublie toutes et tous. Et puis, surtout, tout est très lié. Et je pense que c'est surtout ça qu'on a traversé. C'était un moment assez confus, avec du coup un enjeu aussi sur la temporalité. Finalement, ce dont je vous parle, ça a commencé vraiment à cette période. Et je pense qu'on en est sorti en été, septembre. C'est à la fois long, court. Il y a eu des moments d'urgence. Il y a eu des moments interminable, et puis il y a eu des moments de bascule, le moment où on accepte de dire que oui, en fait, là, c'est, c'est vraiment compliqué. Et des moments de deuil, d'acceptation. Enfin, toute cette temporalité, elle est assez dure et je pense qu'on commence à peine à en prendre conscience. Un autre des points qui est important, à mon sens, c'est aussi d'admettre le rôle et l'importance clé de l'information. Quelle information on partage à quel moment, à qui, comment on protège les équipes, parce que du coup, on était quand même quasiment 20, avec notamment des personnes qui arrivaient. Enfin voilà, tout ça, ça a été des vrais enjeux hyper importants pour nous. Et puis nous, et ça, je développerai plutôt dans la deuxième partie, l'enseignement hyper fort, c'est ce partage d'informations, on l'a aussi fait en externe, on l'a fait avec nos partenaires, avec toutes nos parties prenantes. Et je pense que finalement, nous, ce qui nous a permis de nous relever, c'est qu'on était, on est toujours et on est un collectif de gouvernance partagé. Un des points clés pour vous le dire, aujourd'hui, on a des nouveaux associés dans la SCOP, donc des personnes qui sont arrivées pendant ce vortex terrible, mais qui ont décidé de rester et de s'engager. Et pareil, côté SIC, on a un nouveau CA, on a encore plus de coopérateurs. Et donc, je pense que c'est ça aussi la force et un de nos enseignements. Voilà, je crois.
Merci beaucoup, Julie. On va se prendre 10 minutes de partage avec vous, public. Alors, comme on l'a précisé en amont, ceci n'est pas une conférence, c'est un plateau radio. Et donc, notre invitation, c'est que si jamais vous avez aussi des témoignages à pouvoir apporter pour venir compléter ces voix collectives que nous faisons maintenant, vous pouvez vous lever, donner votre nom si vous voulez présenter l'enjeu d'une structure. Voilà, on va se donner 10 minutes pour faire ça. Et l'idée, c'est de penser à une intervention qui dure 2 minutes par personne. Donc, si jamais il y en a qui veulent participer, n'hésitez pas.
Bonjour. Je représente l'association Recyclop. Recyclop, qu'est-ce que c'est ? C'est une association qui vise à réduire l'impact environnemental des mégots sur notre environnement. Donc, on est ici à la Friche. On a notre local et notre atelier en bas dans les sous-sols. Ça fait plus de 10 ans qu'on fait ça. On a 3 axes de travail. En fait, le premier, c'est la sensibilisation et l'information auprès des publics fumeurs, sans les stigmatiser sur leur consommation. Le deuxième axe, ça va être la gestion d'espaces fumeurs avec l'apport de solutions, donc notamment des cendriers fixes où on fonctionne avec le nudge, donc des cendriers de sondage pour ceux qui connaissent et qui sont installés d'ailleurs un peu partout dans la friche, donc pour amener en fait le fumeur à faire le geste de manière un peu inconsciente. Ça, c'est la définition du nudge. On collecte ces mégots et on les valorise en une énergie électrique qui, en fait, ne rejette pas de CO2 dans l'atmosphère. Donc, en fait, contrairement aux incinérateurs d'ordures ménagères où les fumées repartent dans l'air, là, elles sont récupérées, elles sont filtrées, ça fait de la vapeur, ça passe dans des turbo-alternateurs et ça génère l'énergie d'une usine de façon autonome. Quoi vous dire de plus ? Notre objectif, à nous, c'est de fédérer. Donc fédérer tout le tissu associatif, donc on s'adapte à plusieurs cibles. En fait, dans un bar et dans un restaurant, les gens ne vont pas se lever pour aller mettre dans un cendrier, donc c'est les cendriers de table qui fonctionnent. Nous, on leur met à disposition un fût. On travaille aussi avec toutes les associations de ramassage de Marseille, qui nous redonnent les mégots. On travaille aussi dans l'événementiel, sur pratiquement tous les festivals de Marseille, où là, on a un stand, et puis là, on fait une prestation de service, en fait, où on apporte des cendriers et on demande aux fumeurs de nous les ramener directement sur le stand. Et on travaille aussi avec des collectivités, des entreprises, toute structure qui est susceptible d'avoir des mégots au sol. Tout ça pour réduire l'impact.
Et alors, est-ce que vous êtes confronté à des enjeux de difficulté, de financement ou de structuration de l'organisation ?
Oui. Alors, je suis arrivé un peu tard. Mais nous, en fait, notre modèle économique, il a bien évolué parce qu'au début, on n'était que 2. Enfin, le fondateur avait eu d'autres personnes avant, mais quand on s'est retrouvé à 2, en fait, on avait une bonne base puisqu'on fonctionne aux besoins et non pas à l'offre. Donc, en fait, on a fait un prêt qui nous a permis d'avoir une base solide de trésorerie. À la suite de ça, on a essayé de différencier nos types de financement. Donc, le premier, c'est envers les entreprises. Donc là, on facture les mégots qu'on vient récupérer en fait chaque année dans les structures. Donc on mutualise et on limite l'impact, on essaye de limiter complètement notre impact carbone. Et ça limite aussi les coûts de déplacement pour ces structures-là. Pour les associations de ramassage, c'est totalement gratuit. Là, on essaie de se faire financer via des subventions qu'on a eues très récemment cette année, plutôt en fin d'année dernière, de la mairie et de la métropole. Pourquoi ? Parce que l'éco-organisme qui dépend des producteurs de tabac finance les collectivités. Donc on a réussi enfin à avoir ces financements-là, qui sont non négligeables. Et comme on est d'intérêt général, nous, notre but, c'est d'augmenter nos moyens humains et matériels, ce qu'on arrive à faire, puisque maintenant, on est 4 salariés. On a plus de 20 bénévoles qui sont là de façon périodique sur les événements, donc qui nous aident beaucoup, des stagiaires, tout ça. Et puis après, à rajouter aussi sur des intervenants extérieurs qui nous aident notamment sur le dépôt des subventions, sur la communication, sur la comptabilité. Parce qu'au début, on était un peu tout seul à faire ça, mais forcément, ça forge. Et maintenant, il faut déléguer. Le travail n'est pas encore fini, mais on arrive petit à petit à pouvoir séquencer et à pouvoir être viable économiquement, mais aussi du coup écologiquement.
Merci. J'entends des enjeux de délégation et aussi de travailler avec des bénévoles pour faire fonctionner une structure. Je voulais savoir si d'autres personnes avaient envie d'intervenir dans la salle pour présenter des enjeux de constat, de difficultés de l'ESS.
Oui, bonjour. Je m'appelle Akila. Je représente une structure. On va rentrer tout de suite dans le cœur du sujet, qui est les financements. Nous sommes en train de travailler sur l'économie sociale et solidaire, bien entendu, mais sur l'argent, pour faire de l'argent circulaire, de faire tourner l'argent comme il y avait dans le temps la roue. Voilà, je pense que c'est quelque chose qu'il faut s'appuyer dessus. Dans notre association, on valorise le bénévolat par des financements de roues. Je dis roue parce qu'à Marseille, ça s'appelle la roue. Nous, on appelle ça les univaleurs. C'est-à-dire que chaque bénévole a du temps qui lui permet de dépenser dans nos formations, par exemple. C'est-à-dire quelqu'un qui vient, eh bien, il va gagner des valeurs et ces valeurs va pouvoir les dépenser dans d'autres endroits. Je pense qu'il faudrait qu'on crée quelque chose ensemble parce que nous sommes une petite structure, mais on y passe du temps. On est en train de voir pour créer carrément un fonds de dotation. Et je pense qu'avec les savoirs de tout le monde, parce qu'ici, nous sommes tous nombreux, on a tous des petits savoirs. Et si on les met tous ensemble et qu'on crée un gros cerveau collectif, je pense qu'il faut qu'on réfléchisse sur les financements, puisque c'était le thème de cette première table ronde, j'ai cru comprendre. Voilà, moi, je vous propose qu'on essaye d'avancer sur cette idée d'argent qui tourne. Parce que je vous donne une petite... J'avais des associés juifs qui m'ont dit, nous, on n'est pas riches, seulement on a beaucoup d'argent, mais c'est toujours le même qu'on fait tourner, et on le fait tourner dans notre communauté, et c'est pour ça qu'on donne l'impression d'être riche. Voilà, c'est la petite conclusion, je ne prends pas plus de temps, je laisse pour les autres.
Merci, et une invitation peut-être à la Cité des Transitions sur ces questions-là. Et on peut prendre une dernière intervention du public.
Merci. Serge Bléois, vice-président des Ateliers Quai Citoyens. C'est une association qui a été fondée il y a une douzaine d'années et qui fait de la sensibilisation sur les messages scientifiques. Et mon constat, c'est je suis vice-président, je vois la présidente qui travaille, qui porte le projet depuis 4 ans, et au détriment de sa santé, hein, au détriment de tout ça, et qui se bat pour avoir les premiers subventions, appels à projets, etc. Et en fait, cette concurrence entre acteurs associatifs est insupportable. Parce qu'en fait, on se retrouve à se battre les uns contre les autres pour des moyens de plus en plus réduits et pour survivre. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui me porte question. Je me demande si c'est pas quelque chose qui est fait exprès. Hein. Et donc, moi, je me pose la question, est-ce que la Banque des Territoires, qui est censée être de la CDC, est pas censée faire ce truc de préfinancement? Enfin, il faut qu'il y ait une banque ou quelque chose, un organisme public, et qu'il y ait des règles claires, et qu'il ne soit pas uniquement... on ne donne pas uniquement le pouvoir à des politiques, qui puisse nous permettre de pouvoir passer à l'échelle. Merci.
Merci beaucoup, Serge.
Je voudrais juste continuer. Pourquoi une banque publique? Pourquoi pas une banque collaborative? Voilà.
Merci.
Peut-être juste un tout petit témoignage par rapport à dessus, parce qu'on en a beaucoup discuté avec Alina en préparant. C'est vrai que cette idée de concurrence entre les structures pour les appels à projets, elle existe. Et donc, il y a des structures qui se créent pour essayer justement de créer de la coopération. On en a parlé, on va encore en parler, et d'essayer de monter peut-être des consortiums pour éviter la concurrence et faire plutôt de la coopération. Mais on en revient à toute la difficulté de ces structures intermédiaires, comme tu les as appelées, Alina, dont le modèle économique est pas simple. Donc voilà, donc on a un problème, on essaie de créer une solution qui peut créer peut-être d'autres problèmes. Donc on voit bien que ça c'est pas si simple, effectivement, cette logique d'appel à projet. Et il y a sans doute quelque chose à modifier là-dessus.
Merci beaucoup Marianne, et nous on voulait aussi pour la conclusion aussi amener un petit élément sur le fait de dire que ce qui est essentiel n'est pas forcément rentable. Et donc, ça pose des gigantesques questions de se dire qu'aujourd'hui, quand on s'inscrit dans des logiques de rentabilité, eh bien, on va vouloir écarter des structures qui n'arrivent pas à trouver un modèle qui puisse être rentable, alors même qu'elles sont essentielles et qu'elles permettent souvent de venir compenser des lacunes de l'État. Et qu'inscrire des logiques de concurrence sur des enjeux qui sont essentiels mais non rentables, ça entraîne toutes ces difficultés-là, avec les témoignages qui ont été portés autour de cette première table ronde. Et je pense qu'on peut vous applaudir chaleureusement.